Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour à tous et toutes.
Aujourd'hui, auditrices et auditeurs de Radio Alpa, on vous emmène faire plus amplement connaissance avec la dernière dynastie chinoise, la dynastie Qing, avec l'histoire tumultueuse du dernier empereur Puyi. C'était hier, Didier.
Oui.
On peut le dire.
Oui, bien sûr.
Et en deuxième partie d'émission, Didier, tu nous parleras d'un jeu millénaire qui passionne le monde entier toujours autant, le jeu de Go.
Oui, tout à fait. Ça, c'est
Je suis sûre que ça t'a plu.
Oui, j'aime bien.
Bon, on commence par la dynastie Qing, qui jouait sûrement au jeu de Go.
Ah, c'est possible.
Alors, la dynastie Qing a régné de 1644 à 1912, donc c'est très récent, après avoir été renversée, renversée la dynastie Ming. Elle a été fondée par les Mandchous, cette dynastie Qing. C'est, les Mandchous venaient de Mandchourie, hein, une ethnie du nord-est de la Chine. Cette dynastie a pu arriver au pouvoir à la suite des conflits et des révoltes paysannes qui avaient affaibli les Ming et sapé l'autorité impériale. Les Mandchous en ont donc profité pour conquérir le reste de la Chine et établir leur dynastie après le suicide du dernier empereur Ming, Chongzhen. Alors, pour consolider leur pouvoir, ils ont adopté une politique efficace pour stabiliser le pays et gagner le soutien de la population. Donc, ça s'est relativement bien passé, l'avènement de la dynastie Qing. Alors, la période Qing a aussi été marquée par des rébellions, mais elle a surtout été ébranlée un peu plus tard par les pressions étrangères, en particulier des puissances occidentales, dont la France.
Oui.
On en parlera une autre fois, de notre position dans les guerres en Extrême-Orient. Et donc, cet affaiblissement par les pressions étrangères a amené à la fameuse guerre de l'opium au 19e siècle. Quand même très important, cette guerre de l'opium. Alors, ces troubles vont affaiblir les Qing et permettre l'avènement, en 1911, de la première révolution chinoise menée par Sun Yat-sen. Avec l'abdication de l'empereur Puyi, ce fut la fin de plus de 2000 ans de règne impérial et la naissance de la République de Chine, rappelons-nous.
Oui, oui.
Et le dernier empereur avait 6 ans, et c'était il y a 102 ans seulement.
Oui, seulement. Et ce dernier empereur...
Il avait abdiqué à l'âge de 6 ans, il n'a pas eu le temps de régner longtemps.
Oui, ça, il n'a pas eu le plaisir.
Et c'était il y a 102 ans.
Ce dernier empereur, il a une vie particulière, il est passé aussi... un système, en fait, quasi féodal à la modernité.
Oui, tout à fait. Ce dernier empereur a eu une vie particulière, une vie mouvementée à laquelle il n'était bien sûr absolument pas préparé.
Ah, j'imagine. Oui.
Alors, il est mort à 61 ans d'un cancer du rein en octobre 1967, donc c'était il y a quand même peu de temps, en pleine révolution culturelle, en étant devenu un jardinier, un anonyme. Alors, il s'appelait en fait Aixin Gyoro Puyi, et il est né le 7 février 1906 dans la cité interdite à Pékin. Il était le deuxième fils d'un prince, du prince Chun et de l'impératrice Longyu. Il n'était pas du tout destiné à être empereur. L'impératrice douairière, alors c'est Tse Chi, alors en français on dit Si Chi, mais c'est Tse Chi.
D'accord.
C'était la personne la plus puissante de la fin de la dynastie Qing. C'est la vieille impératrice douairière. Elle était contre la politique de réforme de l'actuel empereur Guangzhou, qui était un gars bien. Mais elle était contre les politiques de réforme. Et comme Guangzhou était toujours sans enfant à 30 ans, Tse Chi, elle va en 1908 enlever Puyi à ses parents, on va dire même arracher Puyi à ses parents. Il était alors seulement âgé de 2 ans et 10 mois. Il était donc le neveu de l'empereur Guangzhou. Et donc, Tse Chi l'a ensuite nommé héritier de l'empire Qing, et puis elle espérait bien garder le pouvoir, forcément.
Oh, j'imagine.
Puisqu'il n'avait que 2 ans et 10 mois.
Bah, tiens.
Hein, donc, c'est le père qui avait été nommé régent, mais elle, bien évidemment, elle manipulait tout ça.
Hein,
c'était une très grande manipulatrice, et pas forcément incompétente, hein, ceci dit.
D'accord.
Alors, à noter que l'empereur Guangzhou mourut d'un empoisonnement à l'arsenic le 14 novembre 1908, peu de temps après. Et Tse Chi mourut le lendemain, comme c'est étrange.
Tiens. Tiens donc.
Alors, le 2 décembre 1908, Puyi fut officiellement intronisé comme empereur, mais n'ayant même pas 3 ans, il ne pouvait absolument pas comprendre ce qui se passait, et il a pleuré pendant une grande partie de la cérémonie. Alors, imaginez, il y avait dans la salle une foule de dignitaires, alors tous habillés, bien sûr, dans les tenues traditionnelles, qui venaient se prosterner devant lui, et ça a duré des heures et des heures.
Pour un enfant de cet âge.
Voilà, alors on peut imaginer que ce tout petit enfant, qui ne pouvait pas bouger, à pleurer. Oui. D'autant plus qu'il avait été donc arraché à sa maison et puis conduit dans ce palais de 8000 pièces avec des gens qu'il ne connaissait pas autour de lui, entouré de 80 hectares.
Bardé de protocole, tout ça.
Voilà, la fameuse cité interdite. Alors, il y a une petite anecdote là-dessus, c'est que son père avait tenté de le calmer et l'histoire raconte qu'il a pris donc Puyi dans ses bras en criant « C'est bientôt la fin ». Il ne croyait pas si bien dire.
Ah, et comment se sont passées ces premières années de règne, justement ?
Alors, il faut souligner que donc, Puyi ne devait pas être empereur. Il vivait heureux avec ses parents, tranquille, avant de devenir le fils du ciel. Celui qui n'aurait plus jamais de liberté et devant toujours se conformer à l'étiquette, comme tu le disais.
Ouais.
Alors, les premières années de son règne ont été faciles. Hein, même avec la Révolution, il était dans son palais, c'était tranquille. Puyi vivait dans l'opulence, servi par une armée de serviteurs et tuteurs. Mais il n'avait aucun pouvoir, même sur son propre destin. Bon Didier, je propose une pause musicale avec une jeune chanteuse chinoise qui n'est pas de la période de la dynastie Qing, qui est bien d'aujourd'hui, de Xi Jinping. La chanteuse s'appelle Jem, G-E-M, et le titre c'est Light Years Away.
D'accord.
Moi j'aime bien.
Oui, oui, moi aussi je partage.
Donc on est dans la Chine moderne là.
C'est parti. C'était Jem qui nous a accompagnés. Jem qui a fait une bien jolie chanson. Je pense qu'on la retrouvera dans Asialogie. Vous êtes
oui,
sur
je l'aime bien,
Radio
j'aime.
Alpa. Voilà,
Jem,
107.
Jem.
Oui, voilà, 107.3. Et on va continuer donc dans l'histoire de cet empereur. Et puis, en fait, après, il y a la Révolution.
Oui.
Et comment ça s'est passé pour lui, justement ?
Alors donc, 3 ans après son accession au trône, la Révolution de 1911 a éclaté et s'est rapidement étendue à toute la Chine. Et donc, en 1912, Puyi a donc abdiqué.
D'accord.
Le nouveau gouvernement républicain lui a servi une belle rente durant tout son règne et lui a permis de conserver son titre mais sans aucun rôle officiel. Lui et les nobles du clan Mandchou étaient très respectés, il faut quand même le savoir. Ouais. Il n'était pas du tout en danger.
Il a pu vivre paisiblement et respecté.
Tout à fait. Alors, il menait encore une vie luxueuse et continuait de s'instruire dans le palais où tout un quartier lui était réservé, tandis que le reste de la cité interdite était occupé par le président, le nouveau président, et son gouvernement. C'est très communiste, ça, je dirais, en partage. Oui. La cité interdite était donc partagée.
En même temps, 8000 pièces, il y a moyen.
Il y avait moyen. Hein. Et Pouilly avait donc gardé une large cour avec lui, donc beaucoup de nobles, et il continuait à célébrer les rites en tant qu'empereur. Même s'il n'avait que 6 ans, il était guidé par rapport à ça.
Oui, j'imagine.
Voilà, il avait quand même un rôle, on va dire, spirituel un peu. Alors, le gouvernement lui avait attribué, à l'âge de 13 ans, un précepteur anglais, un ancien diplomate, Reginald Fleming Johnston, et Pouilly entretenait avec lui une bonne relation. Il a ainsi appris l'anglais, les mathématiques et la géographie. Il n'était pas complètement ignare, Pouilly, il ne faut pas croire ça.
En fait... Il a eu une vie plutôt agréable, Pouilly, en fait.
À cette époque-là, oui.
Oui.
Mais pas tout à fait, parce qu'il s'ennuyait quand même terriblement. Et il voulait même s'échapper de la cité interdite pour aller étudier à l'étranger. Il manquait de rien sur le plan matériel,
oui,
ça c'est
bien.
Sûr. Mais il s'ennuyait.
En même temps,
mais il n'a jamais pu aller étudier à l'étranger parce que la plupart des nobles, conservateurs, ne lui ont jamais permis de le faire.
Ouais.
Alors, il avait même élaboré un plan d'évasion avec son frère, mais le plan a été découvert et ils n'ont pas pu s'échapper. Alors, Pouilly a quand même mené sa petite révolution personnelle, influencée par son professeur anglais et d'anglais. Pouilly a coupé sa tresse. Les Mandchous portaient la tresse. Ils ne se coupaient pas les cheveux. Et donc, Pouilly s'est coiffé à l'occidental et il a demandé aux autres nobles de faire pareil. Et il est aussi quelque chose d'important, c'est qu'il a aussi licencié des eunuques qui volaient les trésors de la cité interdite. Il s'en était rendu compte. Hein, les eunuques et les serviteurs vendaient les trésors pour les vendre.
Petit 13e mois.
Et voilà. Et donc, il a quand même lutté contre ça. Et il a aussi changé son nom. Il a pris le nom de Henri Pouilly. Il a occidentalisé son nom. Alors, il y a quelque chose que peu de gens savent. Hein. En fait, en juillet 1917, il y a un seigneur de la guerre conservateur opposé à la République qui a restauré Pouilly sur son trône.
Ah.
Et seulement pendant 11 jours. En fait, ça n'a pas duré du tout. Et Pouilly a dû abdiquer, entre guillemets, une deuxième fois, sans conséquence pour sa vie, car il n'y était a priori pour rien.
Okay.
Voilà. Alors, autre chose, hein, en 1922, à 16 ans, il s'est marié avec une princesse et avec une concubine impériale en même temps, hein, selon la tradition de la dynastie Qing.
D'accord. Bah, 1922, c'était l'époque où le Japon s'installait progressivement partout en Asie, alors...
Voilà. Ça arrive effectivement, la mainmise du Japon sur l'Asie. Alors, en 1924, le président chinois de l'époque, ce n'était plus Sun Yat-sen, le président a été renversé. Et Pouilly a dû s'enfuir pour la première fois de la cité interdite, parce qu'en fait, sa sécurité, là, n'était plus vraiment garantie.
D'accord.
Et puis, il avait été approché par des agents secrets japonais. Aussi, il va se réfugier dans la concession japonaise de Tianjin pendant 7 ans, devenant un traître à son pays.
Bah oui, j'imagine.
Forcément.
Hein. Forcément. Hein.
Alors, il acceptera en 1934 de monter sur le trône de l'État fantoche du Mandchoukuo, qui était la Mandchourie, hein. Mais le Mandchoukuo, c'est en japonais. C'est un état créé par le Japon, qui avait donc conquis la Mandchourie en 1931. Alors, il ne faut pas oublier que c'était le pays des ancêtres de Pouilly. Donc, Pouilly, il avait toutes sortes de bonnes raisons d'accepter, finalement, de devenir empereur. Il va rester empereur de la Mandchourie, enfin du Mandchoukuo, jusqu'en 1945, jusqu'à la fin de la guerre.
Oui, bien sûr.
Alors, mais il n'était qu'une simple marionnette aux mains des Japonais.
Fantoche, tout ça.
Voilà, qui l'incitait à consommer de l'opium pour mieux le soumettre.
Tiens, comme ça, au moins, bien sûr.
Alors, je préciserai aussi que durant cette période, dans les années 30-40, il y a un grand nombre de Chinois qui ont été capturés et utilisés comme en Corée dans les expériences de laboratoire. Et de nombreuses fosses communes contenant des dizaines de milliers de corps ont été découvertes en Mandchourie après le départ de l'armée japonaise.
Du coup, qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? Parce que voilà. Bon, il était alors devenu un traître, un ennemi de la Chine. C'est, oui. Le passé, enfin, c'est lourd quand même là, non?
C'est lourd. Alors du coup, on était en 1945. Ouais. Il était donc au Manchukuo. Bah, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu s'enfuir au Japon.
Puis... Oui, je peux comprendre.
Alors, mais il s'est fait arrêter à l'aéroport le 19 août 1945 par l'armée rouge.
D'accord.
Soviétique.
Eh oui.
Et le dernier empereur devint alors criminel de guerre. Traître, criminel de guerre. Okay. Alors, il a d'abord été en résidence surveillée en Sibérie, pour ensuite être entendu en 1946 au tribunal militaire international de Tokyo,
oui.
Hein, qui avait été fondé par les Américains,
pour
on se souvient.
Oui, pour juger les criminels de guerre.
Voilà, dont le but était de juger, comme tu le dis Didier, les criminels de guerre. Et Pouilly va révéler certains crimes hein, commis par les Japonais, mais il saura se préserver quand même.
D'accord.
Alors, à la victoire de l'armée rouge, les soviétiques ont remis Pouilly, âgé de 43 ans, au nouveau gouvernement communiste de Chine.
Oui.
Et Pouilly va passer 10 ans en prison.
Ah, et tout de même. Ah,
donc, un peu loin de Pékin, mais en Chine. Alors, en 1959, Pouilly va rédiger une confession dans laquelle il fait amende honorable, ce qui lui vaudra la clémence de Mao.
D'accord.
Et puis, il a été libéré et autorisé à retourner à Pékin, où il a eu un emploi de jardinier au jardin botanique.
Ah oui.
Il y a eu un problème quand même. Ah. Lors de la révolution culturelle en 1966, ça en expliquera aussi ce que c'est. Les gardes rouges ont ciblé Pouilly comme étant le dernier symbole de la vieille Chine. Il fallait tuer toutes les vieilleries, les faire disparaître, tout raser. Il est retourné à la casse-prison. En perdant le peu de confort qu'il avait, parce qu'il vivait quand même dans une liberté,
ouais.
Il avait, c'était pas luxe chez lui, mais il avait un chez lui, il avait un petit confort
il avait sa
quand même.
Vie, quoi.
Et puis bah, le régime le veillait, on va dire. Alors bah, moi je vous recommande, chers auditeurs, de revoir le film de Bernardo Bertolucci, hein, Le Dernier Empereur, quand même. C'est une histoire qui est emblématique et puis qui nous raconte notre propre histoire aussi. Alors le 17 octobre, pour terminer, hein, le 1967, donc à l'âge de 61 ans, Pouilly va mourir. Alors je conclurai en disant que la vie de Pouilly n'a pas été seulement l'histoire d'un homme, mais celle d'un peuple et d'une culture en pleine mutation. On est passé du féodal à la modernité, à la plus totale, on peut le dire. Et pour changer de sujet, on va écouter une chanson qui nous parle du jeu de Go, puisqu'après tu nous parles du jeu de Go,
voilà,
Didier.
On va se mettre
alors
en
c'est
appétit.
Juniper, et la chanson s'appelle « Jeu de Go ».
乾坤浩荡，去炎凉一相对，回天。
C'était Juniper dans Asialogie. La chanson s'appelle « Jeu de Go ». Très approprié.
Tout
ton sujet, Didier. Tu nous parles du jeu de Go.
Oui.
Qu'est-ce que le jeu de Go ?
Alors, c'est un jeu vieux de 4000 ans déjà.
Très vieux comme jeu.
Oui, c'est ça. Ça
une vieillerie presque.
Ça impose un peu, oui. Ah, on va dépoussiérer tout ça, même si ça n'a pas forcément besoin. Alors, toujours au top des jeux pratiqués dans le monde, vu des règles faciles, et puis son univers mêlant l'histoire, la stratégie et la philosophie. Alors, le Go, il a très peu évolué. Il est né en Chine, il y a à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ.
Ah oui, ça fait 4000 ans.
Voilà, c'est ça, bah oui. Et se propagea au Japon beaucoup plus tard, entre le 6e et le 8e siècle après Jésus-Christ. Les origines du Go viendraient du Tibet, il y a plusieurs milliers d'années, ce qui en ferait le jeu le plus ancien encore pratiqué de nos jours.
D'accord.
Alors, il ne s'est pas répandu que récemment en Occident, hein, en fait. C'est au 19e siècle, en Hongrie, puis en Allemagne.
D'accord, oui, donc c'est beaucoup plus tard chez
c'est
nous.
C'est ça, nous, c'est arrivé bien plus tard.
Alors, quelle est son histoire à ce jeu
Alors,
vieux ?
Les premières références au Go sont apparues au 8e siècle avant Jésus-Christ, et Confucius évoquait aussi le Go dans ses entretiens au 6e siècle.
D'accord.
Alors, les premiers traités de Go datent du 3e siècle à la fin de la dynastie Han. La plus ancienne partie connue a été publiée dans l'un des premiers traités du Go, les diagrammes de Wu, aux alentours de l'an 230.
Oui, il tenait voilà.
Oui, oui, oui. Le Go avait à cette époque un grand succès en Chine. Il a été intégré aux trois autres arts sacrés, la peinture, la musique et la calligraphie. Puis le Go a été introduit ensuite en Corée vers l'an 500 et au Japon vers l'an 700.
Alors, de quel matériel avons-nous besoin pour jouer au jeu de Go, Didier ?
Alors, je t'explique. Le matériel, il est simple. Il y a 181 pierres noires et 180 pierres blanches en forme de lentilles qui font 2,21
cm
de diamètre.
C'est très
précis. Ah, je ne peux pas être plus précis. Elles sont en pâte de verre, mais on peut aussi en trouver en résine, bois, plastique ou en acre et en ardoise pour les pierres traditionnelles. Il faut aussi un goban, un plateau quadrillé de 19 lignes et 19 colonnes avec 361 intersections. Il existe des gobans plus petits de 13 lignes et 13 colonnes pour s'entraîner pour des parties plus rapides. Les gobans traditionnels peuvent être de petites tables décorées très luxueuses.
Alors, quelles sont les règles du jeu de Go et quel est le but du jeu, simplement ?
Ah, oui, le but du jeu, c'est la construction de territoires sur le goban, en posant les pierres sur les intersections dans ce quadrillage. Le Go se joue à deux. Celui qui commence joue avec les pierres noires et l'autre avec les pierres blanches. À tour de rôle, les joueurs posent une pierre de couleur sur une intersection inoccupée du goban. À noter qu'on peut jouer au Go très jeune.
D'accord.
Alors, les règles s'apprennent en quelques minutes et permettent aux débutants de faire rapidement des parties passionnantes. La seule véritable règle à connaître, c'est celle de la capture des pierres. L'objectif est clair, hein. Il faut contrôler le plus grand territoire possible. C'est très différent des échecs qui stimulent l'affrontement d'une armée. Le Go, ce n'est pas d'anéantir l'autre, c'est de partager un territoire commun. Ce sont des pierres noires qui commencent.
Alors, il y a des particularités, sûrement, il y a un vocabulaire spécifique.
Oui, il faut quand même apprendre le vocabulaire. Par exemple, une chaîne, c'est un ensemble de plusieurs pierres de même couleur voisine. Liberté d'une chaîne sont les intersections inoccupées voisines des pierres de cette chaîne. Lorsqu'un joueur supprime la dernière liberté d'une chaîne adverse, il la capture en retirant du goban les pierres de cette chaîne. Lorsqu'une chaîne n'a plus qu'une liberté, on dit qu'elle est en atari.
D'accord. Alors, et comment on termine une partie, Didier ?
Alors, la partie s'arrête lorsque les deux joueurs passent consécutivement. On compte alors les points. Chaque intersection ou du territoire d'un joueur lui rapporte un point, ainsi que chacune de ses pierres encore présentes sur le goban. Par ailleurs, commencer est un avantage pour les noirs. Aussi, dans une partie à égalité, les blancs reçoivent en échange 7,5 points de compensation appelés commis. c'est pour éviter les parties nulles, le 7,5.
Ah oui, c'est rusé.
Eh oui.
Alors, est-ce qu'il y a des associations, des championnats, tout ça?
Oh oui, depuis longtemps, t'imagines bien, 4000 ans.
Oui, c'est hein, vrai.
La première association de professionnels japonais a été fondée en 1924 et la première association américaine en 1934. Alors, petite anecdote. En 1938, s'est jouée une partie entre deux maîtres japonais. Et cette partie a été immortalisée dans un roman, Le Maître ou le Tournoi de Go, de l'écrivain Kawabata, mort en 1972. Écrivain qui recevra le prix Nobel de littérature en 1968 tout de même. Alors, grosse anecdote aussi, malgré la guerre, les compétitions ont continué au Japon. Effet incroyable, du 4 au 6 août 1945, s'est joué à Hiroshima la finale d'un très grand championnat. Or, le 6 août, la bombe atomique Little Boy est larguée sur la ville. Par chance, les dégâts sur le lieu du match sont mineurs. C'était la partie dite de la bombe atomique.
Oh, c'est terrible.
Qui est tombée sur Hiroshima. Au coup 106 de cette partie ce jour-là.
Ah, ouais, c'est une partie qui est un petit peu inoubliable.
Oui, celle-là,
bon,
je pense.
Didier,
oui.
Tu sais qu'il nous reste peu de temps.
Oui.
Alors, qu'en est-il du Go aujourd'hui? Est-ce qu'on peut jouer qu'est-ce que tu peux nous dire du Go aujourd'hui? Est-ce qu'on peut jouer au Go?
Alors aujourd'hui, les meilleurs joueurs sont coréens, japonais et chinois. Les meilleurs joueurs occidentaux, sont cependant encore loin derrière eux. Les logiciels de Go deviennent forts aussi. Hein. En 2017, un logiciel AlphaGo a même battu le chinois champion du monde.
Ah oui.
Eh oui. Pour progresser et explorer les subtilités du jeu, on peut jouer sur Internet ou rejoindre un club et participer au tournoi. Au Mans, il y a le club de Go qui fait partie de la Fédération française de Go. On peut aller jouer tous les mercredis à partir de 20h30 rue du Chêne Vert. Voilà, ils font partie... d'une page Facebook. Donc,
ils ont une page Facebook.
Allez découvrir.
Oui, c'est pas loin le Chêne Vert, hein, c'est le long de la Sarthe.
Non, c'est pas très loin, oui.
Bon, merci Didier, Asialogie, c'est fini. N'oubliez pas de visiter notre page Facebook, les amis, on attend vos amis et vos avis, vos amis aussi, et vos suggestions.
Voilà. Alors, dites à vos amis de nous écouter et qu'ils donnent leur avis.
Tout à fait. Bon, rendez-vous la semaine prochaine. Salut à tous.
À la semaine prochaine. お客様。